60, ses atrocités. Bientôt, il s'abandonna à toute espèce de cruauté. Les sujets ne lui manquaient pas. Il persécuta d'abord les amis de sa mère, puis ceux de ses petits-fils et de sa belle-fille, enfin ceux de ses gens, et même leurs simples connaissances. Ce fut surtout après la mort de ces gens qu'il mit comble à ses fureurs. Ce qui fit clairement voir que ce ministre l'excitait bien moins encore qu'il ne fournissait à ses penchants cruels les occasions de faire le mal. Cependant, Tibère, dans un précis biographique, ose dire qu'il a puni ces gens parce qu'il a découvert ses desseins criminels contre les enfants de son fils Germanicus. La vérité est qu'il fit périr l'un de ces deux princes lorsque ces gens étaient déjà devenus suspects, et l'autre après la perte de ce favori. Il serait trop long de rapporter en détail toutes ces cruautés. Je me contenterai d'en donner une idée générale. Il ne se passa pas un seul jour, sans en excepter les jours consacrés par la religion, qui ne fut marqué par des supplices. Le premier jour de l'an, il sévit contre quelques citoyens. Il enveloppa dans la même condamnation les femmes et les enfants d'un grand nombre d'accusés. Il était défendu aux proches de pleurer ceux qui étaient condamnés à mort. Les plus grandes récompenses étaient décernées aux accusateurs, et quelquefois même aux témoins. On ajouta foi à tout délateur. Tout crime était capital, même de simples paroles. Un poète fut accusé d'avoir fait dire des injures à Agamemnon dans une tragédie, et un historien d'avoir appelé Brutus et Cassius les derniers des Romains. On les punit sur le champ, et l'on supprima leurs écrits, quoiqu'ils eussent été approuvés quelques années auparavant, élus devant Auguste. Des prisonniers furent privés non seulement des consolations de l'étude, mais même de tout commerce et de tout entretien. Plusieurs, appelés en justice et sûrs d'être condamnés, se frappèrent dans leur maison pour éviter les tourments et l'ignominie. D'autres avalèrent du poison au milieu du Sénat. Mais on pansait leurs blessures et on les portait en prison à demi-morts et palpitants. Tous les suppliciés étaient traînés avec un croc et jetés aux gémonies. On en compta jusqu'à 20 en un seul jour, et parmi eux, des femmes et des enfants. Comme il n'était pas d'usage d'étrangler les vierges, le bourreau les violait auparavant. On forçait de vivre ceux qui voulaient mourir, car Tibère regardait la mort comme un supplice si léger qu'ayant appris qu'un prévenu nommé Carnulus était suicidé, il s'écria « Carnulus m'a échappé !» Un jour qu'il visitait les prisons, il répondit à quelqu'un qui le priait de hâter son supplice. « Je ne me suis pas encore réconcilié avec toi. » Un consulaire rapporte dans ses annales qu'un repas nombreux, auquel il assistait, un nain, mêlé avec d'autres bouffons, lui demanda brusquement et tout haut pourquoi Paconius, accusé de lèse-majesté, vivait si longtemps. Tibère lui reprocha d'abord son indiscrétion. Mais peu de jours après, il écrivit au Sénat qui eut à statuer sans délai sur la peine due à Paconius. 62. Il informe contre les prétendus complices de la mort de Drusus. Il invente des supplices. Il fut exaspéré au plus haut point, et ses fureurs redoublèrent, lorsqu'il apprit que son fils Drusus, qu'il croyait être mort d'intempérance et de maladie, avait été empoisonné par sa femme Livia et par ses gens. Il multiplia les tourments et les supplices. L'instruction de cette procédure l'absorba tellement, pendant des journées entières, qu'il fit sur-le-champ appliquer à la question, comme parent de celui-ci qu'il recherchait, un de ses hôtes de Rhodes, que par une lettre amicale, il avait appelé à Rome, et dont on lui annonçait l'arrivée. Ensuite, quand l'erreur fut reconnue, il ordonna son supplice pour étouffer cette aventure. On montre encore à Capré le lieu des exécutions. C'était un rocher, d'où l'on précipitait dans la mer les malheureux, auxquels on avait fait souffrir les tortures les plus longues et les plus recherchés. Des matelots les recevaient et les assommaient avec des crocs et des avirons, jusqu'à ce qu'il ne leur restât plus un souffle de vie. Il avait imaginé, entre autres genres de cruauté, d'user d'adresse pour faire boire beaucoup de vin à ses convives. Puis, on les liait aussitôt à la verge pour qu'ils souffrissent à la fois des ligatures et du besoin d'uriner. Si la mort ne l'eût prévenu, et si Thrasyle ne l'eût engagé exprès, dit-on, à différer quelques-uns de ses projets, en lui faisant espérer une plus longue vie. Il aurait encore immolé plus de victimes, et n'aurait épargné aucun de ses autres petits-fils. Gaius lui était suspect, et il méprisait Tibère comme le fruit d'une adultère. Cette supposition n'est pas absurde, car de temps en temps, il vantait le bonheur de Priam, qui avait survécu à tous les siens. 63. Ses terreurs. Mais, au milieu de tant d'horreurs, outre qu'il inspirait de la haine et de l'exécration, il était encore en proie aux agitations et en butte aux outrages. En voici des preuves. Il défendait de consulter les augures en secret, sans témoin. Il voulut un jour disperser les oracles voisins de Rome, mais il y renonça, effrayé de la puissance des sorts de Préneste, que l'on avait apporté à Rome dans une boîte cachetée, n'avait pu y être découvert que lorsque la boîte eut été reportée dans le temple. Une autre fois, il offrit des provinces à un ou deux consulaires, sans oser l'y envoyer. Et il les retint près de lui, jusqu'à ce qu'il leur eût donné des successeurs quelques années après. Néanmoins, comme ils conservaient le titre de leur charge, il leur déléguait plusieurs affaires, qu'il faisait terminer par leurs lieutenants et leurs subordonnés. 64. Ses précautions contre sa belle-fille et ses petits-fils. Après la condamnation de sa bru et de ce petit-fils, il ne les fit jamais aller d'un lieu dans un autre qu'enchaînés et dans une litière fermée, avec une escorte militaire qui avait ordre d'empêcher les passants d'y fixer leur regard ou de s'arrêter. 65. Il se défait de ses gens, ses craintes et ses précautions. Il tolérait qu'on célébrât publiquement la naissance de ses gens et qu'on révéra partout ses images en or. Mais dès que ce ministre conspira contre lui, il ne déploya point pour le perdre son autorité suprême. Il recourut à la ruse et à l'artifice. Afin de l'éloigner de lui sous un prétexte honorable, il le fit son collègue dans son 5e consulat, qu'il se décerna pour cela même, après un long intervalle pendant lequel il n'était pas à Rome. Ensuite, il le séduisit par l'espoir d'une alliance et de la puissance tribunicienne, et tout à coup, il l'accusa dans une honteuse et misérable missive au Sénat. Il pria les sénateurs de lui envoyer un des consuls, pour qu'il accompagnât devant eux, avec une escorte militaire, un vieillard abandonné. Plein de défiance et craignant une révolution, il avait donné l'ordre que l'on mît en liberté son petit-fils Drusus, alors détenu en prison à Rome, si les circonstances l'exigeaient, et qu'on le mît à la tête des affaires. Il tenait des vaisseaux tout prêts pour se réfugier auprès de quelqu'une des armées. Et de temps en temps, du haut d'un rocher escarpé, il observait les signaux qu'il avait fait élever au loin, afin de savoir promptement tout ce qui se passait, sans que les messages fussent arrêtés. Quand la conjuration de ces gens fut étouffée, il ne fut ni plus rassuré, ni plus ferme, et durant 9 mois, il ne sortit point de sa villa, qu'on appelait la villa Dion. 66. Il est en butte à toutes sortes d'outrages. Il recevait de toutes parts des avanies qui achevaient d'ulcérer son âme inquiète. Les condamnés l'accablaient en face de 1000 invectives ou déposaient leurs satires dans l'orchestre. Il en était très diversement affecté. Tantôt, la honte lui faisait désirer que ses outrages demeurassent inconnus ou cachés. Tantôt, il feignait de les mépriser, les répétant lui-même et les rendait publics. Il fut aussi fort maltraité dans une lettre d'Artaban, roi des Parthes, qui lui reprochait ses parricides, ses meurtres, sa lâcheté, ses débauches, qu'il engageait à satisfaire le plus tôt possible, par une mort volontaire, l'implacable et juste haine de ses concitoyens. 67. Il savait d'avance à quel avilissement il était réservé. Enfin, à charge, à lui-même, il fit en quelque sorte l'aveu de ses maux, en commençant ainsi l'une de ses lettres. « Que vous écrirai-je ? Père conscrit, comment vous écrirai-je ? Ou dont la situation actuelle, que ne vous écrirai-je pas ? Si je le sais, que les dieux et les déesses me fassent périr encore plus cruellement, que je me sens périr tous les jours. » Quelques-uns croient que la faculté qu'il avait de prévoir l'avenir lui avait découvert quel serait son sort, qu'il savait longtemps auparavant à quelle infamie et à quelles horreurs il était destiné, et que c'est pour cette raison qu'à son avènement à l'Empire, il avait si obstinément refusé le titre de père de la patrie, et n'avait pas voulu qu'on jurât par ses actes, de peur que de si grands honneurs ne l'en fissent paraître bientôt encore plus indigne. C'est du moins ce qu'on peut conclure du discours qu'il tint sur ces deux objets. « Je serai toujours semblable à moi-même, disait-il, et je ne changerai point de conduite, tant que je jouirai de ma raison. Mais pour l'exemple, le Sénat ne doit point s'obliger aux actes de qui que ce soit, parce que les circonstances peuvent le faire changer. » Il disait encore dans un autre endroit, « Si jamais vous doutiez de ma conduite et de mon dévouement, et puissais-je mourir avant ce malheur, le titre de père de la patrie n'ajoutera rien à mon honneur. Il vous exposera au reproche de me l'avoir donné légèrement ou d'avoir changé inconsidérément sur mon compte. » 68. Son portrait. Tibère était gros, robuste, et d'une taille au-dessus de l'ordinaire. Large des épaules et de la poitrine, il avait de la tête aux pieds tous les membres bien proportionnés. Sa main gauche était plus agile et plus forte que la droite. Les articulations en étaient si solides qu'il perçait du doigt une pomme récemment cueillie, et que d'une chiquenaude, il blessait à la tête un enfant, et même un adulte. Il avait le teint blanc, les cheveux un peu longs derrière la tête et tombant sur le cou, ce qui était chez lui un usage de famille. Sa figure était belle, mais souvent parsemée de boutons. Ses yeux étaient très grands, et chose étonnante, il voyait dans la nuit et dans les ténèbres, mais seulement lorsqu'il s'ouvrait après le sommeil, et pour peu de temps ensuite sa vue s'obscurcissait. Il marchait le cou raide et penché, la mine sévère, habituellement silencieux. Il ne conversait presque point avec ceux qui l'entouraient, ou s'il leur parlait, c'était avec lenteur et en gesticulant négligemment de ses doigts. Auguste avait remarqué ses habitudes disgracieuses et pleines de hauteur. Il avait essayé plus d'une fois de les excuser auprès du Sénat et du peuple, comme des imperfections naturelles et non des défauts de cœur. Tibère jouit d'une santé inaltérable pendant presque tout le temps de son règne, quoique depuis l'âge de 30 ans, il la gouverna à son gré, sans recourir aux remèdes, ni aux avis d'aucun médecin. 69. Ses superstitions. Il s'occupait d'autant moins des dieux et de la religion qu'il s'était appliqué à l'astrologie et qu'il croyait au fatalisme. Cependant, il craignait singulièrement le tonnerre. Quand le ciel était orageux, il portait toujours sur sa tête une couronne de laurier, parce que la feuille de cet arbre est, dit-on, à l'abri de la foudre. 70. Son goût pour les lettres et pour l'histoire de la fable. Il cultiva avec beaucoup d'ardeur la littérature latine et la littérature grecque. Pour la première, il prit des leçons au vieux Messala Corvinus, qu'il avait honoré de son estime dans sa jeunesse. Mais il obscurcissait son style à force d'affectation et de purisme, et ses improvisations valaient mieux quelquefois que ce qu'il avait médité. Il composa un chant lyrique intitulé « Élégie sur la mort de Lucius César ». Dans ses poésies grecques, il imita Euphorion, Rhianus et Parthenius. Ces poètes faisaient ses hélices. Il fit placer leurs ouvrages et leurs portraits dans les bibliothèques publiques parmi les plus illustres auteurs anciens, ce qui fut cause que beaucoup de savants lui adressèrent des commentaires sur ces trois écrivains. Il s'adonna aux récits fabuleux avec un soin qui allait jusqu'à la niaiserie et jusqu'au ridicule. Les questions qu'il faisait ordinairement aux grammairiens, pour lesquelles, comme nous l'avons dit, il avait de la prédilection, étaient à peu près de cette nature. Quelle était la mère des cubes? Quel nom avait Achille à la cour de Lycomède? Quels étaient les chants des sirènes? Enfin, le jour où il entra dans le Sénat pour la première fois, après la mort d'Auguste, il crut devoir, pour satisfaire tout ensemble à la religion et à la piété filiale, imiter le sacrifice de Minos à la mort de son fils. Il offrit au dieu du vin et de l'encens, mais sans joueur de flûte. 71. Il interdit l'usage du grec en public. La langue grecque lui était familière, mais il ne la parla pas indistinctement en tout lieu. Il s'en abstenait surtout avec tant de scrupules dans le Sénat, qu'avant de prononcer le mot « monopole », il commença par s'excuser de ce qu'il était obligé de recourir à ce terme étranger. Un jour aussi, ayant entendu dans un décret du Sénat le mot « emblema », il fut d'avis qu'on changeât ce mot barbare et qu'on lui substituât une expression latine, ou, si l'on n'en trouvait pas, qu'on se servît d'une périphrase. Il força un soldat, auquel on demandait son témoignage en grec, de répondre en latin. 72. commencement de sa maladie. Pendant tout le temps de sa retraite, il n'essaya que deux fois de rentrer à Rome. La première fois, il vint sur un trirème jusqu'au jardin de César. Des soldats rangés sur les bords du Tibre avaient ordre d'écarter tous ceux qui auraient voulu se porter au-devant de lui. La seconde fois, il s'avança par la voie Appienne jusqu'au 7e millière, vit les murs de Rome sans y entrer, et repartit. Au premier voyage, on ne sait quelle fut la cause de son retour, mais au second, ce fut un prodige qui l'effraya. Il s'était amusé à élever un serpent. Un jour qu'il allait, selon son habitude, lui donner à manger de sa main, il le trouva rongé par les fourmis. C'était un avertissement d'éviter la violence de la multitude. Il revint donc à la hâte en compagnie et tomba malade à Astura. Puis, se sentant un peu mieux, il poussa jusqu'à Circeïs. Là, pour éloigner tout soupçon de maladie, il assista à des jeux militaires et même lança des javelots sur un sanglier qu'on avait lâché dans l'arène. Mais il ressentit aussitôt un point de côté, prit un refroidissement après s'être trop échauffé et retomba plus dangereusement malade. Néanmoins, il se soutint encore quelque temps à Misène, où il s'était fait transporter, quoique par intempérance et par dissimulation, il ne retracha rien de sa vie ordinaire, pas même les festins ni les autres plaisirs. Son médecin Chariclès, sur le point de le quitter au sortir d'un repas, lui prit la main pour la baiser. Tibère, croyant qu'il avait voulu lui tâter le pouls, le retint, l'engagea à se remettre à table et prolongea le festin. Il observa même la coutume qu'il avait de se tenir debout, après le repas, au milieu de la salle à manger, avec un licteur à côté de lui, de recevoir ainsi les adieux de tous les convives et de leur faire les siens. 73. Sa mort. Cependant, ayant lu dans les actes du Sénat qu'on avait renvoyé, même sans les entendre, plusieurs accusés au sujet desquels il avait écrit à la hâte qu'ils étaient désignés par un dénonciateur, il frémit à la pensée qu'on le méprisait, et résolut à tout prix de regagner Capré, n'osant rien hasarder que dans un lieu sûr. Mais, retenu par les tempêtes et par le progrès du mal, il s'arrêta dans la villa de Lucullus. Il y mourut peu de temps après, dans la 78e année de son âge et la 23e de son règne, le 17e jour avant les calendes d'avril, sous le consulat de Cneius, Aceronius, Proculus et de Caius, Pontius, Nigrinus. Quelques-uns croient que Gaius lui avait donné un poison lent et subtil. D'autres que, dans un moment où la fièvre l'avait quitté, on lui avait refusé des aliments. D'autres enfin qu'on l'avait étouffé sous un coussin. D'autres que, revenu à lui, il réclamait son anneau qu'on lui avait enlevé pendant sa défaillance. Sénèque a écrit que, sentant sa fin approcher, il avait ôté son anneau, comme pour le donner à quelqu'un, et qu'après l'avoir tenu quelques instants, il l'avait remis ensuite, était resté longtemps immobile, la main gauche fermée, que tout à coup il avait appelé ses esclaves. Et que comme personne ne lui répondait, il s'était levé, mais que les forces venant à lui manquer, il était tombé mort auprès de son lit. 74. Présage qui avait annoncé sa mort. Au dernier anniversaire de sa naissance, il crut voir en songe un Apollon téménite d'une grandeur et d'une beauté rare, qu'il avait fait venir de Syracuse pour le placer dans la bibliothèque du nouveau temple, et ce dieu lui assurait qu'il ne pourrait y être consacré par lui. Quelques jours avant sa mort, un tremblement de terre fit tomber la tour du phare à Capré. À Misène, le brasier qu'on avait apporté pour réchauffer la salle à manger s'était éteint, et refroidi depuis longtemps, lorsqu'il se ralluma tout à coup sur le soir, et brûla, jusque bien avant dans la nuit. 75. Joie à Rome, imprécation contre sa mémoire. À la première nouvelle de sa mort, la joie fut telle dans Rome qu'on se mit à courir çà et là, les uns criant qu'il fallait jeter Tibère dans le Tibre, les autres suppliant la terre maternelle et les dieux mânes de ne lui accorder de place que parmi les impies. D'autres, exaspérés par une atrocité récente qui se joignait au souvenir de ses anciennes cruautés, le menaçait du croc et d'hégémonie. Un sénatus consulte avait statué que la peine des condamnés serait toujours différée jusqu'au 10e jour. Or, il arriva que quelques-uns devaient être exécutés le jour même où l'on apprit la mort de Tibère. Ils demandaient leur grâce à tout le monde. Mais comme il n'y avait personne à qui l'on pût s'adresser, Gaius étant encore absent, les gardiens, craignant de contrevenir aux ordres qu'ils avaient reçus, les étranglèrent et les jetèrent aux gémonies. La haine redoubla, comme si la barbarie du tyran se faisait encore sentir après sa mort. Lorsqu'on enleva ce corps de Misène, beaucoup de personnes crièrent qu'il fallait le transporter et le brûler dans l'amphithéâtre d'Atella. Mais des soldats le portèrent à Rome, où on le brûla au cours de funérailles publiques. 76. Son testament. 2 ans avant sa mort, il avait fait un double testament. L'un des exemplaires était de sa main, l'autre celle d'un affranchi. Et ils étaient tous deux parfaitement semblables et signés par les gens de la plus basse condition. Il instituait ses héritiers par égale portion. Gaius, son petit-fils par Germanicus, et Tibère, qu'il était par Drusus. De plus, il les instituait mutuellement héritiers l'un de l'autre. Il faisait aussi des legs à beaucoup de personnes, entre autres aux vestales, aux soldats, à chaque citoyen et aux surveillants de chaque quartier.